Vous préparez pour la chaleur de l'été avec 15% de rabais sur les installations. Multiconfort FP en face de l'aéroport.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting.
Ouais, vous êtes toujours dans On en jase à 12h36. Pascal Cévé qui vous parle parce que Jeff est en congé pour les deux prochains jours. Je suis bien accompagnée. Mathias est avec moi. C'est lui qui va vous livrer les bulletins de nouvelles tout au long de l'émission parce qu'il y en a de la nouvelle. Mais question de faire ce qui se doit d'être fait. Ça veut dire vous dire il fait combien dehors? Si vous sortez, c'est moins 11 actuellement à Québec. Moins 8, c'est le maximum pour la journée. Ce soir et cette nuit, c'est encore assez agréable. On est encore à moins 11 comme minimum. Alors, la semaine de relâche n'est pas finie. Profitez-en. Demain, vendredi, 1 degré comme maximum. Ce sera généralement nuageux. Et en fin de semaine, on change l'heure. Et ça annonce souvent le début du printemps. Je le sais, c'est le 21 mars. C'est pas en fin de semaine qu'on tombe à cette saison-là qui est tant appréciée, tant attendue en ce moment. Mais les températures vont de soi aussi. 10, 4, 6 degrés, 2 degrés. La semaine prochaine, je vois rien en dessous de zéro. Il y a un grand changement de température qui s'amène. Bonne nouvelle sur les réseaux routiers. Il y avait fermeture à l'accès Félix-Leclerc-Ouest vers l'autoroute L'Ancienne Nord depuis plusieurs heures maintenant et c'est terminé. Donc, vous allez pouvoir circuler, mais bien sûr, ça avait ralenti un peu le secteur. On se repositionne. À l'émission aujourd'hui, bien des dossiers à gérer. Manquez pas ça aussi dans les prochaines minutes. On va parler à Serge Le Guélec, qui est représentant du groupe des Gagnés. Il est conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe des Gagnés. Pourquoi? Parce qu'on a des bateaux, deux cargos qui sont pris dans le golfe Persique. Et ça, on travaille là-dessus depuis plusieurs jours pour avoir l'entrevue. C'est un peu surréel de se dire il y a des bateaux d'ici, des cargaisons d'ici, du monde qui travaille ici, qui sont pris là où il y a des branle-bas de combat. Il y a du monde qui se font détruire les bateaux de leurs entreprises, des cargaisons qui sont perdues. Et eux sont pris dans le golfe Persique. Est-ce qu'ils ont vu des bombardements? Est-ce qu'ils craignent pour leur sécurité? Comment on va aller chercher ces bateaux-là? On va aborder toutes les questions avec M. Le Guélec dans quelques instants. Mathias, au niveau des nouvelles, toi, tu es allé rencontrer le maire Marchand ce matin. Il y avait point de presse pour Saint-Roch et son avenir.
Oui, on a annoncé un plan d'action pour Saint-Roch, justement, qu'on nomme plan d'action 2026-2029. Saint-Roch, un centre-ville vivant. En gros, ce qu'on a présenté, c'est un investissement de 80 millions étendu sur ces quatre années-là, 60 millions en investissement direct pour des infrastructures. On parle notamment du Stade Canac, de l'édifice Joseph-Erné Grégoire. Également, on parle de 5 millions par année en budget de fonctionnement. On va, c'est un peu ça, en gros, c'est d'animation de quartier. Quand on vous parlait de meilleur éclairage dans Saint-Roch également, on inclut ça dans ces 20 millions-là, donc des nouvelles lumières pour rendre le quartier plus vivant.
Fait que je comprends qu'il y a autant de la politique interne pour l'itinérance et tout ça, le développement d'affaires, que aussi le divertissement, puis essayer de faire un genre de vivre ensemble.
Exactement. Le maire Marchand avait promis 100 millions durant la campagne électorale pour 5 projets forts, notamment la fontaine au parc Jean-Paul Dallier, qui avait fait énormément jaser dans les médias. C'est pas ça qu'on annonce aujourd'hui. Ça va venir avec le temps parce que ça demande des investissements provinciaux ou encore fédéraux qu'on n'a pas présentement pour annoncer.
Bon, ben on en reparle à 12h50 avec toi, Mathias. C'était un dossier complet. Et bien sûr, la douce voix de Bruno Marchand pour nous accompagner.
Exactement. Je vous parle du nouveau sondage Léger, le journal TVA qui est sorti aujourd'hui. Ce qu'on nous apprend, c'est qu'une majorité des Québécois souhaiterait davantage une réduction des services de l'État plutôt qu'une hausse d'un impôt dans le but de pallier au déficit budgétaire auquel on fait présentement face. Ça, c'est Éric Girard qui fait présentement la construction du budget qui devrait être déposé au cours du prochain mois/mois et demi, dépendamment de la date qu'on choisit de ce côté-là. Ce qu'on nous mentionne justement, c'est que c'est 61% des répondants qui ont dit on est prêt à prendre une baisse de service si on n'augmente pas nos impôts, si c'est ça la seule solution possible, justement, pour réduire ce budget-là, ce déficit-là. Je passe d'un autre sondage léger, celui du fédéral. Ça passait un peu plus sous le radar, mais il y a quand même des choses intéressantes à mentionner. Ses intentions de vote du côté du fédéral, le Parti libéral, qui est encore une fois en augmentation. On parle de 49%, c'est énorme, du côté du fédéral qui voterait pour le Parti libéral, justement, s'il y avait des élections demain matin. pour le Parti conservateur, c'est une baisse de 3 % malheureusement. Pour le Parti, on passe à 35 %. Ce qui est intéressant également, c'est les taux d'approbation pour le gouvernement de Mark Carney qui sont excessivement élevés. On parle d'un taux d'approbation pour vous donner une idée là, que de personnes satisfaites présentement de 59 %. Donc, 6 Canadiens sur 10 présentement regardent le travail de Mark Carney et se disent « Ah oui, oui, je suis satisfait de ce qu'il fait. »
Ouais, ben ça, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais moi, ce sondage-là m'a fait un peu rire parce que on est prêt à accepter un déficit de service si jamais on n'a pas d'impôt en hausse, quoi que ce soit. Mais à quel point, une fois quand tu le vis, là, à quel point tu acceptes ça? C'est encore non tangible, intangible pour les gens qui, je pense, répondaient au sondage.
Oui, effectivement, puis on sait que lorsqu'il y a une baisse de service, ben, on se plaint quand même. Bernard Drainville a réagi aujourd'hui par rapport aux difficultés qu'il rencontre, je vais dire comme ça, là, au cours des dernières semaines. On l'a comparé à Donald Trump à plusieurs reprises. Ça va pas bien dans les sondages non plus. Alors Bernard Drainville, qu'est-ce qu'il va faire? Comment qu'il voit tout ça? Il a répondu aujourd'hui en disant qu'il s'en fout. Oui, oui, qu'il s'en fout et qu'il continue à avancer, qu'il ne se retirerait pas de la course à la chefferie. Il garde la tête haute malgré ses difficultés-là.
Merci Mathias, très apprécié. Puis manquez pas son dossier hein, du Point de presse un peu plus tard à l'émission On en jase. Entrevue qui était attendue, entrevue qui est un peu surréelle parce qu'on s'en va près du golfe Persique, on s'en va jaser à quelqu'un d'ici qui travaille dans des gros cargos, du moins qu'il les coordonne, il dira lui-même ce qu'il fait, mais c'est deux navires de la marine marchande québécoise qui sont coincés dans le golfe Persique en pleine guerre avec le Moyen-Orient. Donc, vous le savez, il y a plein de navires qui ont été bombardés, autant du côté de l'Iran que des États-Unis. Et on se vante de ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand t'es pris dans le détroit d'Ormuz puis que toi, tu veux juste faire ton commerce, mais que t'es vraiment dans une situation où peut-être ta sécurité est en jeu? Mais on va l'en jaser avec Serge Leguellet, qui est représentant du groupe Desgagnés. En fait, il est conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe Desgagnés. Bonjour, M. Leguellet.
Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
Merci d'accepter l'entrevue. De ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, le Rosaire a dégagné et le Miena a dégagné sont pris, les deux navires transporteurs de colis dans le golfe Persique. C'est ça qu'on comprend?
Bon, on comprend qu'on a présentement deux navires qui opèrent dans le golfe Persique, qui sont en attente présentement. Ils sont à l'ancrage. Ils attendent pour aller à quai, pour aller décharger leur cargaison dans un port qui, dans un des cas, est situé en Arabie Saoudite et l'autre aux Émirats Arabes Unis. Alors, on est en attente présentement pour aller décharger nos cargaisons.
Au niveau économique, ça ressemble à quoi ce qui se passe pour vous, pour l'entreprise? C'est-tu des pertes énormes? Est-ce que vous avez peur de perdre cette cargaison-là? C'est quoi les impacts économiques?
Bon, on n'est pas là du tout. C'est pas le schéma de réflexion qu'on a présentement. Le schéma de réflexion qu'on a, c'est plutôt de se poser la question lorsque les cargaisons ont été déchargées à terre ou à l'un et l'autre des quais où l'un et l'autre des navires se trouvent. La question est plutôt de réfléchir à la façon avec laquelle les deux navires seront en mesure de quitter le golfe Persique, en présumant qu'il y aura à ce moment-là un protocole qui permettra aux navires de transiter à travers le détroit d'Ormuz de façon sécuritaire. C'est vraiment ça la question principale qui nous préoccupe présentement. Le protocole n'est pas connu pour les situations que vous avez évoquées. Il suffit de préciser quand même que les navires, là où ils sont présentement, ils sont du côté occidental du golfe Persique, sont un peu plus loin de l'action, là, un peu pas mal plus loin en fait, que le détroit d'Ormuz, où là, ça chauffe un petit peu plus.
OK, donc somme toute assez protégés bon, par le territoire plus occidental du détroit, oui. Mais on nous disait qu'il y a près de 20 000 marins, 15 000 passagers qui sont pris dans le golfe Persique au cœur de cette guerre-là au Moyen-Orient. Vous, quand vous évaluez le nombre de marins, de gens qui travaillent sur ces gros cargos-là, on est à combien de personnes? Est-ce que c'est des Québécois?
Non, c'est un équipage international. Pendant l'année, chez Desgagnés, il y a comme deux temps. Il y a un temps où on est très actif au Canada et dans l'Arctique canadien, en montant en puissance avec des équipages canadiens. Et puis, lorsque la saison dans l'Arctique est complétée, un bon nombre de navires cargo général sont déployés partout à travers le monde, sur toutes les mers du monde. Et en ce moment-là, on emploie des équipages internationaux. Alors, pour nous, sur nos navires, présentement, on a à peu près une trentaine de gens qui œuvrent en tout et partout là, sur les navires, et ce sont ces gens-là qui sont nos préoccupations. Puis je vous rassure, ces gens-là, on leur parle régulièrement, on est en contact fréquent avec le commandant de l'un et l'autre des navires.
C'est la bonne nouvelle.
On peut effectivement comparer nos notes sur l'évolution de la situation. On s'occupe bien de nos équipages. Et vous avez peut-être entendu parler de jamming dans la région, mais fort heureusement, pour l'un et l'autre des navires, les équipages sont en mesure de contacter leur famille puisqu'ils ont accès à un réseau Internet via Starlink. Alors,
okay.
Les conditions, de façon générale, à bord de nos navires, le profil de risque est évidemment plus élevé, c'est normal, on le comprend tous. Mais de façon générale, le moral est très bon à bord des bateaux.
OK, de ce qu'on comprend, vos navires, donc, québécois, de marine marchande québécoise, sont pris, ils sont en attente, c'est plus une situation de latence à ce niveau-là.
Oui.
Mais la seule façon de passer, vous nous l'avez très bien dit, c'est de passer par le détroit d'Ormuz. Là, ça pourrait brasser. Mais avez-vous été, votre équipage, parce que vous n'êtes pas sur les cargos en ce moment, mais conscient de bombardement, est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises?
Bien, pour l'instant, encore une fois, puisque les navires, d'abord, sont à l'ancre, sont beaucoup plus loin que des ports comme tels, premièrement, et puis ils ne sont pas dans une zone qui où on a vu des activités militaires de part et d'autre dans les derniers jours. Donc, ils sont relativement à l'abri de ces activités-là, mais c'est très clair, comme vous le dites, qu'il faut rester aux aguets. Alors, il faut constamment regarder quelle est l'évolution de la situation un peu partout dans le golfe Persique pour s'assurer que les mesures qui sont déjà en place sont suffisantes ou il faut en adapter d'autres.
Puis si jamais on voudrait rapatrier éventuellement, parce qu'on ne sait pas le conflit va durer combien de temps, si on veut rapatrier ces personnes-là éventuellement, c'est quoi nos solutions? Est-ce qu'on peut passer ailleurs que le détroit d'Ormuz ou c'est vraiment le seul chemin possible?
Bien, malheureusement, comme vous le dites, dans cette étendue-là, il y a juste une sortie et c'est à travers le détroit d'Ormuz qu'on peut le faire. C'est un peu trop tôt pour évoquer ce scénario-là. On va voir. On voit déjà, il y a des signes précurseurs de mesures qui veulent se mettre en œuvre pour reprendre un trafic qui est sécuritaire à travers le détroit d'Ormuz. On n'en connaît pas les modalités, on ne connaît pas les échéanciers non plus. Mais je pense qu'on peut s'attendre là, dans les prochains jours à certains développements à ce niveau-là. Et on révisera à ce moment-là.
Mais c'est quand même une grosse affaire à gérer, j'ai l'impression, pour vous et également toutes les entreprises qui font du commerce et qui doivent passer par ces eaux-là dans le coin du golfe Persique, parce qu'on a rapporté jusqu'à maintenant environ 7 incidents là, qui sont liés à des navires dans le détroit puis qui ont fait même des morts, des blessés. On ne peut plus considérer que peu importe où l'on est, on est en sécurité. On a vu des attaques du côté de Dubaï, entre autres, qui étaient complètement surréalistes juste parce que les Américains y étaient présents avec des infrastructures. Puis c'est comme ça qu'on se dédouane du côté de l'Iran. Est-ce que vous, qui êtes dans le domaine depuis quelques années, c'est la première fois que vous voyez une situation comme celle-là où c'est dur, en fait, d'être certain de quoi que ce soit?
Ben, je vous dirais, j'essaie de me souvenir la dernière fois, peut-être, sur la scène internationale, où on a eu des navires de marine marchande qui auraient été en attente dans une zone où il y a un conflit, puis il y a juste une porte de sortie. Puis la situation a un contexte qui est assez particulier, effectivement.
OK, donc c'est pas mal la première fois que vous le vivez, vous aussi. Vous dites que les passagers sont capables d'être en contact avec leur famille par Starlink. On remercie certains entrepreneurs pour cette façon-là de communiquer, mais y a-t-il quand même des manques au niveau de la nourriture, au niveau...
Non? Non, on s'en est assuré. C'est une des premières choses qu'on s'est assuré qu'il y ait suffisamment d'eau et de nourriture à bord des navires pour que si jamais les choses devaient durer plus longtemps, on ait amplement de réserves en eau et en nourriture à bord du bateau. Alors, c'est pas du tout un problème. Puis, comme je le mentionnais, ce qui est important pour les marins à bord des bateaux, c'est être capable de continuer à maintenir un lien avec la famille. Et ça, sont en mesure de le faire. Alors que dans d'autres secteurs du golfe Persique, c'est impossible parce que les signaux sont effectivement jamais, comme on dit.
Oui. OK. Puis ça, c'est le genre de situation où vous avez, pas nécessairement toujours la possibilité de les prévoir. Nous, on ne pouvait pas le prévoir non plus. Mais au niveau de l'eau et de la nourriture, vous devez avoir des réserves toujours dans ce genre de navire-là, pour quelque raison que ce soit.
On est toujours dans une situation où on prévoit ce qui peut arriver. Alors, on peut penser, par exemple, à un navire qui va faire un long transit, qui va partir, présumons, de l'Amérique du Nord, il va aller en Asie. Alors, lorsqu'on fait la planification des provisions et de l'eau à bord, on garde toujours une réserve de plus parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver des avaries, il peut arriver des mauvaises températures, donc le voyage est plus long. On prévoit toujours ce genre de choses-là, mais on ne prévoit pas de situations comme celle qu'on vit présentement. Mais fort heureusement, on était en mesure de s'assurer rapidement là, qu'on avait des réserves importantes à bord du bateau en matière d'eau et de nourriture.
Notre dernière question pour vous, M. Le Guélec. Vous avez le Rosaire à dégagner, on l'a dit, et le Miena à dégagner, deux navires qui sont transporteurs, donc qui sont pour des compagnies de transport. Il y a des colis à l'intérieur, il y a des choses à livrer, il y a du commerce. Vous vous spécialisez dans quoi? Est-ce que ça peut aussi couper une chaîne d'approvisionnement?
Bien, écoutez, ce qu'on a comme cargaison à bord, c'est de tout genre. Des cargaisons qui sont utiles pour des gens, par exemple, qui sont des industriels. Ça peut être des gens qui attendent du mobilier, du matériel de construction. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a des bris comme ça en approvisionnement, ça a un impact sur la chaîne logistique. Moi, je vous invite à regarder là où vous êtes, l'ensemble des équipements qui sont autour de vous. Il est fort possible qu'ils sont tous arrivés chez vous par bateau. Les gens l'oublient, mais effectivement, on transporte énormément de matériel par navire. Et par conséquent, quand un événement comme ça survient, bien, c'est clair que ça a un impact sur les chaînes logistiques.
Merci beaucoup, Serge Le Guélec. On se reparle certainement dans les prochains jours. On va essayer de suivre ça de façon assez serrée. Vous êtes représentant du groupe Dégagné, conseiller au président du conseil et chef de la direction du groupe. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu. Bonne journée.
Bonne journée. Mathias, c'est fascinant. On sait que ça existe. On sait que des gens qui font affaire et qui roulent pas mal de business par ce canal-là, par le golfe Persique. Ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu stagnation dans le temps de la COVID, puis ça avait créé des remous économiques pendant plusieurs mois. Il y en a même qui ne sont pas remis officiellement de tout ça. Mais savoir qu'il y a des bateaux québécois qui font justement ce genre de commerce-là et qui sont à risque, il ne dit pas de façon claire, nette et précise. Ils tournent autour parce qu'ils sont en certaine sécurité. Mais une fois qu'ils se déplacent, ces navires-là, puis qu'ils s'en vont dans la zone de guerre, on ne sait jamais ce qui peut arriver en ce moment. On le voit qu'il n'y a personne qui, finalement, a une tête au niveau de la conversation politique qui est comme on a vu auparavant.
Bien, dans le secteur du Moyen-Orient, en général, il n'y a pas d'endroit... Il y a des endroits plus sécuritaires, mais il n'y a pas d'endroit sécuritaire à proprement parler. Mais c'est fou parce que souvent, on voit ces nouvelles-là qui sont en Iran, qui sont loin. Puis, on regarde ça, puis on se dit « Ah, OK, c'est loin. On n'a pas de stress de ce côté-là. Ça nous atteint pas directement. » On a comme l'impression que ça se répercute pas nécessairement dans notre cours. Mais quand on parle à des entreprises québécoises qui ont des navires pris là-bas, quand on se rend compte qu'il y a des proches présentement qui ont des amis, de la famille... qui sont pris là-bas, ben on se rend compte que c'est pas pour rien qu'on traite autant de cette situation-là dans les médias actuellement.
Puis on va suivre le dossier, je trouve ça fort intéressant. C'est un peu entre, je vais pas dire le voyeurisme, mais en même temps, on veut s'immiscer, on veut avoir les deux pieds dedans, puis surtout comprendre c'est quoi la situation, puis le manque de sécurité à ce niveau-là.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
On l'a dit, Mathias est allé du côté du point de presse du maire Marchand, donc Bruno Marchand, maire de Québec, au sujet de l'avenir de Saint-Roch. Tu as de l'information, mais est-ce que tu peux nous dire si on semble avoir un air d'aller? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de structuré, quelque chose de clair pour Saint-Roch?
Bien, je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'était justement de structurer la chose parce qu'il y a certains projets, notamment le Stade Canan, qui a un investissement de 20 millions. Ça va être jusqu'à 2028, mais c'est un projet qui était déjà enclenché. C'est un projet qu'on savait déjà qu'il existait. Mais là, l'objectif, c'est de mettre tout ça dans un plan d'action sur 4 ans, donc de 2026 à 2029, pour vraiment savoir concrètement. On a une enveloppe de 80 millions qu'on dispose justement pour Saint-Roch, des infrastructures et tout. Comment on va utiliser cette enveloppe-là? À quoi que ça va servir?
Ouais.
Puis comment qu'on va refaire naître Saint-Roch grâce à ça?
Comment on la ventile finalement? Puis y a-t-il des points qui sont sortis en particulier? Par exemple, de se dire, OK, oui, on veut un peu de divertissement là-dedans pour le bien-vivre, puis essayer de mélanger tout le genre de communautés qu'on trouve dans Saint-Roch, soit malheureusement l'itinérance, mais aussi les gens d'affaires, puis les gens qui se sont positionnés pour y habiter dans les dernières années?
Ben, le maire Marchand, justement, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'il expliquait. Il a dit, j'y vais pas avec une grosse annonce, quelque chose de gros. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est plusieurs points qu'on va travailler étape par étape. Parce que là, on parle de 60 millions en infrastructure qu'on va, notamment le Stade Canac, on parle du Parc Victoria, qu'on va remettre à neuf les différentes infrastructures. C'est plusieurs millions qui sont investis dans ces différentes infrastructures-là. On parle de 5 millions également qui sont prévus chaque année pour prendre des actions au fur et à mesure en animation, en culture, en fonctionnement de quartier. Puis, Mère Marchand explique que si on veut bâtir Saint-Roch, bien, ça se fait petit par petit.
Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont marché. Puis, je pense que ce qu'on fait, l'addition, ce qu'Eleni a bien nommé, l'addition des mesures. On ne vise pas un grand chelem. Un grand chelem, là, ça ne sera pas suffisant. Ce qu'on vise, c'est bâtir manche par manche quelque chose qui va donner un résultat pour lequel on va pouvoir bâtir là-dessus pendant des années, voire des décennies. Et présentement, moi, je pense que les deux dernières années témoignent de ces résultats-là qu'on additionne. Après ça, qu'est-ce qui va pouvoir déterminer qu'on a réussi? Seul le résultat. La promesse n'est pas suffisante. Le plan n'est pas suffisant. Il va falloir livrer.
Ça me fait rire parce qu'on le sent un petit peu plus terre à terre que lorsqu'il parlait de l'itinérance zéro puis ses plans qu'il n'y ait aucune itinérance dans la ville de Québec. On dirait que là, ses conseillers ont vraiment fait le travail sur le terrain, mais on dit ouais, ben on s'en sortira pas aussi facilement qu'on pensait. Puis peut-être qu'on est un petit peu plus dans la réalité.
Oui, et puis. Puis forcément, là, ça fait plusieurs années, il y a l'expérience qui rentre également. On sait qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Par exemple, durant la campagne électorale, on avait promis 100 millions. Souvenez-vous, une enveloppe de 100 millions pour revitaliser Saint-Roch. C'était notamment avec 5 projets majeur.
On mais peut y penser... en as-tu parlé aujourd'hui?
Ben c'est ça, il y en a parlé parce qu'on parle du réaménagement de la place Jacques-Cartier, de l'îlot Fleury, du parc Gilles-la-Montagne, de la rame Marina à Saint-Roch et du jardin Jean-Paul Dallier. On avait parlé que ça, c'est 5 secteurs prioritaires. Puis on avait parlé d'une enveloppe de 100 millions. Par contre, on n'a rien annoncé par rapport à ça aujourd'hui. Puis Mme Marchand a justement expliqué pourquoi ça n'a pas été annoncé aujourd'hui.
C'est un minimum. Quand on vous a parlé... en campagne, et on y croit. Puis aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce à faire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a un temps de planification important. Les cinq grands endroits, l'îlot Fleury, Place Jacques-Cartier, Parc Jean-Paul Dallier, le Parc Gilles-la-Montagne, la Marina Saint-Roch, qu'on va rénover d'ici 15 ans, on va là. Ce n'est pas une promesse, on va là. Pourquoi présentement, on n'annonce pas qu'on fait un ou l'autre? Pour deux raisons. Parce qu'on a besoin de planifier les choses. Ce sont de grands travaux de rénovation. Ce n'est pas simple pour la ville de trouver tous ces argents-là pour faire en sorte de faire vite. De procéder vite. Fait que oui, on a besoin des investissements du gouvernement du Québec.
Puis ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, puis il y avait plusieurs promesses durant sa campagne. On peut penser au gymnase avec différents terrains de volleyball, le centre sportif qui avait promis. On peut penser à l'incinérateur. Il y avait beaucoup de promesses comme ça qui dépendent du provincial puis du fédéral. Donc même si on dit « ça s'en vient », ben ça reste ce qu'on
pas
attend.
Certain, c'est selon les enveloppes.
Ben c'est ça. On a besoin des enveloppes budgétaires. Malgré tout ça, malgré les mesures qu'on met en place, est-ce que la question s'est faite poser, est-ce qu'au final, le problème dans Saint-Roch présentement, c'est presque plus sa réputation que d'autres choses?
Hey, on répond quoi à ça? Parce qu'il y a bien des gens qui y vivent, disent, ben là, la réputation, peut-être, mais il y a des enjeux complexes.
C'est ça.
Qui, ça nous saute au visage, là.
C'est ça. Puis on n'efface pas ces enjeux-là, par contre, du côté du maire Bruno Marchand. Ce qu'on dit, c'est que ce qui sort dans les médias et les histoires qu'on voit, c'est beaucoup des critiques. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles dans Saint-Roch.
Ce que je vous dis, c'est que, puis c'est pas la faute des médias, c'est qu'un commerçant qui ferme, on en entend parler pendant 3 jours. Un commerçant qui rouvre, je le vois pas passer. Puis savez-vous quoi? C'est pas de votre faute. L'article, il sera pas lu. L'article, il sera pas intéressant. Fait que vous avez un travail à faire, puis vous le faites bien. Ce que je dis, c'est que dans ce monde actuel, les bonnes nouvelles durent moins, les bonnes nouvelles sont moins, et on le sait, c'est documenté par la science. Alors, des bonnes nouvelles, il y en a. Il y a des commerçants qui ont ouvert, qui ont pignon sur rue maintenant. Il y a des bonnes nouvelles en matière de diffusion culturelle, en matière d'investissement ici qui amène du monde. Et
je vais faire un cours en un sur pourquoi des fois les bonnes nouvelles ne sont pas répertoriées dans les médias. C'est qu'on est dans une industrie économique. Ça veut dire, si on fait de la pub pour un, pourquoi on ne fait pas de la pub pour l'autre? Puis des fois, la ligne est mince entre annoncer qu'il y a quelque chose de nouveau dans Saint-Roch, puis dire, ben, c'est une nouvelle parce qu'il y a une certaine revitalisation du secteur, puis justement faire de la pub gratuitement quand tu es malheureusement une entreprise privée qui veut avoir des partenaires d'affaires. Fait que ça, c'est vraiment le rôle de la ville. Sur les pages, entre autres, des réseaux sociaux de la ville, dites-le qu'il y a un nouveau commerce qui ouvre dans Saint-Roch. Mettez ça de l'avant, jouez le rôle. Vous la comprenez, la game marchande. Je suis totalement convaincu de ça. Sinon, ben, ça va juste tomber en deux cracks puis rattraper ce qui tombe entre les deux cracks. Ça me fait penser à des commerçants dans un centre d'achat ici dans la ville de Québec qui y sont, OK? Puis ça fait des années qu'ils y sont. Mathias, ils ont décidé qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau commerce qui ouvrait les portes dans le centre d'achat, ils faisaient la promotion parce qu'ils se disent « ça va amener du monde puis ça va amener du monde chez nous aussi ». Fait que c'est un peu un jeu de rôle entre eux. Si on veut être très clair, précis puis expliquer le pourquoi des fois ça se retrouve pas dans les médias, il y a aussi une histoire d'argent là-dedans. Puis pourquoi est-ce qu'on ferait la promotion pour l'autre puis pas pour un autre, bien, ça va venir complexe aussi à gérer. Par contre, je mets un petit point d'interrogation sur... On a reçu en entrevue le propriétaire du Bâti-Bassac qui, lui, déménage à Charlebourg. Vous avez vu ça dans les médias cette semaine. On en a parlé parce qu'on se demandait, justement, est-ce que c'est parce que Saint-Roch est complexe en ce moment? Ça devient une nouvelle. Par contre, on n'a pas eu de réponse. Est-ce pourquoi Charlebourg serait plus prolifique? Mais les auditeurs, puis là, 88-971-1021 ou encore sur Twitch, vous êtes toujours nos yeux et nos oreilles. Vous êtes toujours exceptionnels là-dessus. Bien, plusieurs donnaient leur façon de voir les choses. Entre autres, bien, il n'y a pas de stationnement. Puis ça, c'est pourquoi qu'il n'y a pas de stationnement? C'est peut-être à cause de la ville. Fait qu'il y a des gens aussi qui vont plus consommer dans Saint-Roch parce qu'ils ont de la misère à y aller en voiture. Faut se poser toutes les questions quand on vient qu'à se poser ces questions-là.
100%. Puis comme tu l'as dit, la ville peut jouer un rôle dans promouvoir ces différents commerces.
C'est son rôle. C'est
effectivement. Mais je termine sur un point parce que tu parles du stationnement, puis on parle de la sécurité beaucoup dans Saint-Roch aussi.
Oui,
ça fait
surtout
partie de ça. Parce que je veux dire, oui, il y a des bonnes nouvelles, mais des mauvaises nouvelles. Ils ne s'inventent pas, il y en a réellement, il y a des problèmes d'itinérance, il y a des problèmes de sécurité, c'est répertorié, puis c'est pas pour rien qu'on en parle. Le maire Marchand s'est fait poser la question, avec toutes ces mesures-là, finalement, ça va être quoi la place de l'itinérance? Est-ce que ça reste une priorité? Voici la réponse du maire Marchand.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, s'attaquer à l'itinérance visible, ça devrait être une priorité. Ça devrait être la première à laquelle on s'attaque, prendre soin de notre monde. Puis on a des résultats. Ce qui me choque le plus, c'est qu'on a des foutus résultats qui marchent. On est capable de sortir avec des organismes communautaires du monde de la rue, de les mettre dans des lieux où ils reprennent du pouvoir sur eux-mêmes. Mais tolérer que des gens vivent dans la rue en se disant « on ne peut pas faire autrement », selon moi, là, c'est un aveu d'impuissance qu'on ne devrait jamais faire. Jamais.
Puis, il a réitéré, parce que je vous rappelle...
Il a réitéré?
Je me suis enfargé dans ses mots comme lui. J'ai
t'as commencé ta prise de parole comme il a commencé
c'est
sa
clé. Exact. L'Union des municipalités du Québec, hier, ont fait une sortie pour dire au gouvernement provincial que l'itinérance doit devenir une priorité nationale. Mm-hmm. Puis justement, il a voulu remettre ça de l'avant aujourd'hui.
Puis je comprends sa frustration parce qu'on reçoit souvent, on en jase, à Boulevard 101, des organismes qui nous en parlent des belles histoires puis à quel point ils sont maintenant encore plus proactifs qu'ils étaient puis qui ont une collaboration entre les divers organismes pour travailler ensemble. Puis c'est vrai qu'il y a des belles histoires. Je la comprends, sa frustration à ce niveau-là. Mais il y a vraiment un rôle où... l'ingérence politique, mettons, dans ce que c'est la nouvelle et quoi que ce soit, il faut faire attention. Puis c'est à eux, finalement, de le prôner puis de continuer de le marteler si ça va bien. Mais merci aux auditeurs, hein, parce qu'on a certaines hypothèses aussi qui ressortent sur le positionnement commercial dans Saint-Roch. C'est quelqu'un qui dit, ben il y a pas autant de commerce que peut-être le maire Marchand voudrait qui ouvre parce que les taxes sont trop chères. Puis peut-être que c'est plus aussi rentable que ce l'était parce qu'il y a-tu des gens qui ont décidé de ne pas aller là. Moi, je vais dire des affaires. C'est important d'en jaser, puis c'est important d'en jaser avec les gens sur le terrain. Fait que on vous remercie toujours quand vous avez des informations 88-971-1021. C'est quoi votre positionnement, vous? Qu'est-ce que va devenir Saint-Roch? Êtes-vous encouragé par le plan semi-plan, je pourrais-tu dire, du maire?
Ben, j'ai envie de dire semi-plan, mais en même temps, nous autres, il nous l'a dit avant la conférence de presse, là, c'est pas un gros boom, c'est pas de quoi de wow.
Il était honnête.
Il a dit, ça va être difficile à couvrir pour les journalistes parce qu'il n'y a pas un gros projet fort. Nous, ce qu'on
c'est
veut...
C'est un suivi, mon ami, c'est un suivi.
C'est un suivi, puis montrer qu'on a un plan qui est en place pour agir un peu partout, dans tous les secteurs qui demandent dans le secteur de Saint-Roch.
Mathias Turcotte, merci beaucoup d'être allé. Et il y en a qui trouvent pas mal courageux d'aller souvent aux côtés du maire Marchand. C'est ton travail, puis on peut toujours te contacter à l'adresse
citoyen@commercialbsvd.fm. Puis moi, non, je sais que pour certains auditeurs, probablement faire mon travail puis aller couvrir souvent des points de presse du maire Marchand, ça pourrait être un cauchemar pour certains d'entre eux, j'en doute pas.
C'est super motivant. Moi, dans le temps, je faisais ce que tu faisais, mais
moi,
avec Régis
ça.
Labeaume. Après, autre temps, autre mœurs.
Oui.
C'est quoi? T'auras jamais des journées sans saveur. C'est ça que je veux dire.
Merci,
Mathias. On revient dans un instant dans On en jase. C'est Rémi Villemur, notre chroniqueur, qui est toujours là le jeudi, qui va venir nous jaser deux choses. Premièrement, il y aura un sondage qui est une catastrophe pour le modèle québécois et une étude qui a été faite sur la part de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. Ben, il y a des bonnes puis des mauvaises nouvelles. Êtes-vous surpris? Peut-être pas, mais par contre, vous êtes peut-être surpris des points qu'amène Rémi Villemur. Restez là, à Boulevard 102.1.
Attention, zoom lunettes, c'est plus de tout.
Saint-Og, la côte de Beaupré, Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard.
boulevard 102-1, maintenant 100% talk.
Une propriété, Leclerc Communication.
Le midi, on en jase à boulevard 102-1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Chose première, chose due, Rémi Villemur, chroniqueur ici à l'émission et aussi animateur du côté de Montréal, s'en vient sur les ondes. On en jase, hein, on ne change pas une recette gagnante. Mais d'abord, je dois vous dire qu'il fait moins 11 degrés en ce moment à l'extérieur. Si je peux vous dire quelque chose de plus sur la température, c'est que c'est pas mal le dernier moins 11 ou le moins quelque chose qu'on va avoir d'ici les 7 à 8 prochains jours. Je comprends, ça peut changer, la météo étant... Mais j'espère que c'est une information un peu positive dans votre journée. J'allais vous dire que ça roule à Monaco. Ben non, la semaine de relâche a été un petit peu plus épineuse sur les réseaux routiers, hors heure de pointe, et c'est encore le cas. Incident sur le pont de Québec Sud à la hauteur du boulevard Champlain. C'est la voie... Alors, il nous dit juste que c'est une voie qui est partiellement entravée. Il y a une panne. J'aimerais vous dire laquelle des voies. Si vous avez une information, 418-971-1021, on texte pas au volant, s'il vous plaît. Je tiens à votre sécurité. Encore là, vous prenez vos décisions. Mais la SQ est sur place. Ça devrait se résorber assez rapidement. Mais souvent, ça amène un certain ralentissement. Échange dans la Ligue nationale de hockey, Mathias?
Oui, il y a eu un échange qui est arrivé plus tôt aujourd'hui. Quand même un bon échange. Puis il a envoyé directement les Maple Leafs dans le camp des vendeurs en vue de cette date limite des transactions qui arrive demain à 3h. C'est Nicolas Roy qui passe du côté de l'Avalanche du Colorado. En retour, les Maple Leafs mettent la main sur un choix de premier tour conditionnel en 2027 et un choix de cinquième tour en 2026. Juste rapidement, selon les dernières informations que nous avons, Colton Parayko aurait refusé de lever sa clause de non-échange pour aller au Sabre de Buffalo. Donc, l'échange qui était avec les Blues de Saint-Louis, qui envoyait un choix de première ronde de Buffalo et Mturka, excuse-moi, c'est un nom un peu bizarre, là. Mturka.
Son nom, c'est?
Mturka. M-R-K.
C'est pour ça que tu disais Mturka?
Mturka, ouais, Mturka. C'est ça, Mturka.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre façon de le prononcer, qui dit mieux?
En direction.
Ce gars-là?
Des fois, des noms, ça il vient de la Tchéquie, si okay. Je ne me trompe pas, ou de ces environs-là. Ce n'est pas tout à fait facile à prononcer, mais c'est ça. Encore une fois, je vous confirme rien, mais c'est des informations qu'on aurait actuellement.
Ce qu'on peut confirmer, par exemple, et ça, c'est une nouvelle qui vient d'arriver dans la minute, qui est super importante pour la sécurité publique. Ça se passe avec le SPVM, donc le service de police de la ville de Montréal. Mathias, il y a un des fugitifs les plus recherchés sur lequel on aurait mis le grappin, finalement?
Oui, on parle de Brian Fuentes Gramajo.
Fuentes Gramajo.
Fuentes Gramajo, un autre nom un peu plus difficile. Qui était recherché par le service de police de Toronto depuis juillet 2025. La raison, c'est un meurtre qui serait survenu dans un centre commercial de Yorkdale. Il est le fugitif le plus recherché au pays du programme Bodo qui a été lancé en 2018. C'est la SPVM, donc le service de police de la ville de Montréal, qui ont mis la main dessus, qui l'ont arrêté un peu avant 3 heures dans la nuit de hier à aujourd'hui.
Absolument, on ne perd pas de temps, on le fait comparaître rapidement.
Normalement, ça va être jeudi, aujourd'hui, cet après-midi. Donc, on devrait avoir un peu plus de détails aujourd'hui. Je vous emmène du côté de Lévis parce qu'on a eu un peu plus de détails là, concernant les différentes usines de traitement des eaux usées de Saint-Nicolas et Desjardins. Lévis annonce qu'il devrait avoir des investissements en fait de 155 millions dans leurs différentes usines d'ici 2029.
Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'était toute qu'une histoire, l'histoire de rendre défécation régulière dans le fleuve Saint-Laurent. Là, dans ma tête, ouais. On avait eu l'image de Denis Coderre dans le temps à Montréal, habillé en Minions, puis on s'était dit plus jamais, s'il vous plaît. Puis on se rendait compte qu'on avait développé trop rapidement les vies puis qu'on manquait de potentiel de traitement des eaux.
C'était 15% des eaux usées traitées à l'usine de Saint-Nicolas qui s'en allaient directement dans Rivière-Chaudière ou encore dans le fleuve Saint-Laurent.
Vive la baignade!
Donc, pour mettre à jour l'usine de Saint-Nicolas, on parle d'environ 80 millions qui seront nécessaires. Et pour mettre à jour celle de Desjardins, on parle de 75,5 millions. Donc, tout ça d'ici 2029.
Ça fait mal, mais c'est essentiel. Là où ça fait mal et c'est parfois essentiel, c'est d'aller jaser avec Rémi Villemur, qui est de l'autre côté de la 20 ou de la 40, selon votre choix préféré. Rémi Villemur, salut!
C'est toute une transition, Pascal, mais toutes mes félicitations.
OK, merci beaucoup. Merci beaucoup des encouragements pour l'estime professionnelle. Rémi, toi, tu es animateur du côté du 99.5 du côté de Montréal, mais tu es collaborateur avec nous et tu as décidé de te pencher sur une nouvelle qui fait foi de quelque chose de fort important. L'opinion des Québécois. On a un sondage léger et dans ce sondage-là, il y en a plein qui disent « Moi, coupez dans mes services, mais ajoutez-moi pas des taxes. »
Ben, c'est exactement ça. Puis je pense que cette espèce de pensée populaire, peut-être du gros bon sens, peut-être qu'il faut l'appeler comme ça, elle dit beaucoup de où on est rendu avec le modèle québécois. Je rappelle quand même que dans moins d'un an, il y a une élection, puis que j'en compte au moins trois partis pressentis pour aller chercher des sièges à l'Assemblée nationale qui remettent en question le modèle québécois. Le Parti conservateur, je les nomme en premier parce que ce sont les premiers à en avoir parlé. On a le Parti québécois également, puis on a la CAQ d'un Bernard Drinville, par exemple, s'il l'emporte la course à la chefferie. Là, on a quoi? Les chiffres nous disent quoi? C'est un sondage léger, 61% des Québécois. Là. 61%, là, c'est du monde. Là. Ça veut dire autour de vous plus que 6 personnes sur 10. Là. Hein? Donc, 61% des Québécois nous disent, nous, on ne veut pas payer plus d'impôts, mais si ça veut dire qu'il faut couper dans les services, OK.
Moi, j'y crois pas. Je te le dis tout de suite. Je n'y crois pas. Je pense que c'est parce que c'est intangible, puis on ne veut pas avoir à plus payer, puis ça, c'est plus clair dans notre cerveau comment ça se manifeste, soit nous faire saigner les poches financières, mais que si ça arrivait, il y en a plein qui se révolteraient, puis ça serait encore plus problématique qu'une hausse d'impôts.
Mais ça arrive déjà. C'est ça l'affaire. Puis tu vois qu'il n'y a pas de révolte populaire parce qu'on est habitué de payer des impôts et que de plus en plus, ces impôts-là servent à payer l'intérêt sur la dette, puis la dette. Donc, il y a forcément moins de services. Il y a moins de services. Il y a moins de services. Je veux dire, il y a de plus en plus d'élèves, il y a moins en moins de profs.
Mais tu trouves pas que ça crie? Moi, je trouve que ça crie depuis des années. Donc, il y a des répercussions à ça.
Bien, moi, j'entends beaucoup plus les employés du service public dire que leurs salaires ne sont pas assez élevés. Ou qui sont pas assez payés, qui n'ont pas suffisamment de moyens. Puis en passant, je mets ça sur un pied d'égalité. Je pense que ce sont deux préoccupations aussi valables les unes des autres. Mais donc, on les entend dire qu'ils sont pas assez payés. Puis on les entend aussi dire, j'ai entendu les profs dire, on n'a plus les moyens d'offrir les services qu'on nous demande d'offrir. Puis ça va de, j'ai même pas de crayon. C'est-à-dire, j'ai pas de crayon mm-hmm. dans ma classe.
Ouais.
J'ai pas de craie, j'ai pas de, le matériel est brisé. Mon ordinateur, il est scrap. Donc, on a ça. Il y a des employés du système de santé qui disent la même affaire. Il y a des médecins qui disent « il faut que j'arrive dans mon bureau avec mon propre écran et là, je le plante là. » Puis là, le technicien vient me dire « il n'est pas réglementaire. » Fait que je repars avec mon écran maison, mais il n'y a pas d'écran pour le remplacer. Donc, j'ai pas d'écran. Donc, je ne peux pas faire mon travail. On a de moins en moins de services. Mais ce 61%-là, moi, ce qu'il me dit, c'est la chose suivante. On a des gens qui payent beaucoup d'impôts au Québec. On paye beaucoup d'impôts au Québec. Il faut juste quand même le rappeler. Là. On paye beaucoup d'impôts au Québec, mais qui se disent, le jour où je vais avoir besoin d'un service, je suis prêt à payer deux fois pour l'avoir. Si je suis dans la merde et que je veux subir l'opération, je ne suis pas prêt à payer plus d'impôts pour qu'on me dise que je vais l'avoir, mon opération publique. Je ne vous crois plus. Je vais mettre de l'argent de côté. Je vais continuer de payer mes impôts parce que je n'ai pas le choix. Puis si je tombe malade, je vais aller au privé. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Parce que ça veut dire que les Québécois, ils ont accepté leur sort d'une certaine façon.
Mais en même temps, ils n'ont pas le choix. On les menottes au poignet. Puis là est la problématique. T'sais, on entendait Christine Fréchette hier dire qu'en éducation, elle veut un partenariat avec le privé pour la construction d'écoles, que ça se fasse plus rapidement. Oh là, on commence à comprendre que peut-être le privé, des fois, ils ont une façon de faire qui peut être plus rapide parce qu'on s'est gangréné au niveau public. Mais j'ai de la misère et j'ai peine à croire que l'argent est si bien géré que ça. Quand je regarde les sommes dans des secteurs puis qu'après ça, on parle d'un écran manquant puis tu peux pas utiliser le tien. T'sais, mettons cet exemple-là. Là. Ou encore, pas de livre dans une classe d'école.
Mm-hmm. Ben oui, mais je donne ces exemples-là parce que des fois, des exemples un peu banals et un peu peut-être même insignifiants révèlent à quel point le problème est grave parce que c'est pas juste dans les grands manques qu'on observe un manque, c'est dans les petits manques. On a toujours le choix. Pascal, je vais te répondre du tac au tac. On peut voter pour un parti qui propose de baisser les impôts aussi. Là. Hein, ça existe ça aussi. Et malheureusement, il faut le rappeler quand même, savez-vous, je vous lance la question, savez-vous c'est quoi la proportion de Québécois qui ne payent pas d'impôts au Québec?
Non, moi je l'ignore.
C'est quand même élevé, me semble.
C'est 40%. Donc, il y a 40 % des Québécois, puis là, évidemment, je mets là-dedans les enfants, je mets là-dedans les personnes âgées qui vivent de leur rente et qui ne payent plus d'impôts, qui sont plus sur le marché du travail. Mais enlevons les enfants 2 secondes, ça fait beaucoup de gens qui ont tout à fait intérêt à ce que le système reste le même parce qu'ils ne cotisent pas ou ils ne cotisent plus pour que le système reste comme ça. Ça fait mal. Ça, c'est un gros tabou au Québec, soit dit en passant. Je sais que ça sonne très droite économique, là, ce que je suis en train de dire, mais il se trouve qu'il y a plein de Québécois qui pensent comme ça. Puis c'est pas mal, hein, de penser comme ça. Vous avez 40 % de la population qui bénéficie de services, mais qui ne paye pas pour les avoir. Donc, c'est sûr que quand arrivent les élections, vous avez une grande population de personnes qui ont tout intérêt à ce que le système ne change pas. Eux autres, d'entendre dire quelqu'un qui dit « on va baisser les impôts, il va avoir moins de services, puis si vous voulez des services, vous allez devoir payer pas au privé. » Oh! Ça les intéresse plus, finalement, ça.
Bien, ça, c'est intéressant, puis c'est un point qui se vaut, puis je pense que c'est une des choses les plus importantes à amener dans ton argumentaire en ce moment sur la table, Rémi. Félicitations à ton tour. Puis, il y a un point, par contre, que j'ai goût qu'on fasse, là, ça va être un sondage Villemur, CV, puis Turcotte, au 88-971-1021, ou encore sur Twitch. Vous positionnez où là-dedans? Vous n'êtes pas obligé de donner trop d'informations sur vous, mais est-ce que vous êtes prêt à moins payer ou du moins rester dans un état statique au niveau de la finance des taxes et des impôts, mais avoir une réduction de service? Parce que moi, les gars, je vous explique ma position du fait que je ne suis pas sûre que si ça s'applique, ça va être si respecté ça ou encore si accueilli que ça. Parce que l'effet de possession là-dedans, quand quelqu'un possède quelque chose là, qu'il l'a automatiquement depuis bien du temps, peu importe sa valeur, ça augmente son importance. Fait que cette... Là, on n'est peut-être pas dans la peur de la perte parce qu'on ne le réalise pas, mais au moment où l'effet de possession va se faire sentir ou le sentiment de droit acquis comme étant normal ou mérité parce que ça a toujours été comme ça dans sa vie va se manifester, ben c'est peut-être son identité personnelle qui va prendre un coup en disant hey, « moi, je suis pas assez important pour que tu me donnes ça, tu me coupes ça. » Et non, non, oublie ça. Et là, je me révolte puis j'oublie complètement le fait que j'étais d'accord parce que je ne voulais pas payer plus.
Oui, c'est un bon point, je comprends, mais tu sais, je reviens au sondage. Augmenter, donc on a demandé aux Québécois, est-ce que vous êtes prêts à augmenter les impôts et taxes pour maintenir les services actuels, pas pour les augmenter? Normalement, vous demandez à des Québécois s'ils sont prêts à augmenter leurs impôts, si en échange, on augmenterait les services. Les maintenir, ils sont 14 % à dire ça. C'est comme si c'était exclu de la réflexion désormais que si on augmente les impôts, on augmente par conséquent les services. Ça, on n'est plus capable d'imaginer que c'est possible au Québec parce que ça fait des années que les impôts sont au même niveau puis que les services descendent. Donc, on n'est pas assez naïf pour croire que si on nous les augmente, ils vont augmenter. C'est grave, là.
Mais ça démontre... Tu un peu la gestion gouvernementale qu'on a eue au cours des dernières années, des budgets déficitaires à chaque année, après ça, des services qui sont pas au rendez-vous depuis plusieurs années puis qui sont de moins en moins au rendez-vous. En gros, c'est tout ça que ça témoigne.
Il y a tellement de textos, les gars, là-dessus, entre autres, quelqu'un qui nous dit « Moi, je suis célibataire au point de vue fiscal et sans enfant, sans médecin depuis près de 10 ans et avant ça, pendant près de 20 ans. » Début cinquantaine avec un revenu de plus de 120 000 $ par année. Alors, il dit « Son contrat social, il est brisé depuis longtemps, mais je paie pleinement mes impôts, j'en ai marre. » Quelqu'un d'autre qui dit aussi par texto « Je travaille 60-70 heures semaine, je paye 2000 $ d'impôts par mois, puis celui qui ne paye pas a autant de services et la rapidité, ça me fait chier. »
Bien, il y a même des exemples de gens qui n'en payent pas puis qui ont des services avant ceux qui en payent. Puis c'est pour ça que la sortie de Bernard Drainville aujourd'hui dérange autant les gens. Il y a des demandeurs d'asile qui ont accès à des garderies subventionnées par l'État, subventionnées par des citoyens, avant des citoyens qui payent des impôts. Là, c'est parce qu'à un moment donné, faut quand même se ranger du côté du juste dans la vie. D'accord? Il faut faire preuve de bonté, de bienveillance, et pas de complaisance, mais de bienveillance. Moi, je crois à ça, je crois à l'empathie. Sauf que si vous avez des gens qui payent des impôts depuis des années et qu'à un moment donné, ils en ont besoin, tu sais, d'en voir la couleur de leurs impôts, puis qu'on n'est pas capable de leur dire « Regarde, ça a donné ça. Tu sais, tout ce que tu as donné depuis des années, ce que tu as cotisé, ça te donne ça. T'es-tu content? » Si ça n'arrive pas, ce moment-là de grâce dans la vie de quelqu'un, il ne croit plus au modèle. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le déchirer, hein, le modèle. Je pense que ça a été longtemps une grande fierté du Québec. On s'en est inspiré. On s'en inspire, par contre, de moins en moins à l'échelle internationale. On a été bon pour se raconter un petit peu des histoires, là, pour se faire croire, par exemple, que tout ce qu'on avait inventé, ça inspirait le monde entier. Il y a quelques mois, la revue The Economist, qui est quand même une sommité en matière d'économie, une revue britannique, a complètement démonté le système des garderies. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de la merde, mais ça veut juste dire qu'il y a deux façons de le voir aussi, des fois. Hein? On ne peut pas juste se répéter à nous-mêmes que tout ce qu'on fait est bon. Il faut regarder ce que les autres disent de nous également. La dernière fois que j'ai entendu dire que quelqu'un s'est inspiré de nous, c'était le maire socialiste à New York qui voulait imiter le modèle des garderies.
Ouais,
oh,
mais...
Oh. Si on se, si on est, non, mais si ça nous rend fier d'inspirer un homme pareil, c'est correct. Moi, personnellement,
écoute,
c'est pas mon badge.
C'est correct, Rémi, je te laisse ton exemple, mais ça sera pas le seul. Par contre, là où j'adhère à ce que tu vas peut-être illustrer avec d'autres exemples un jour, sans parler de cet homme-là, c'est le fait que ça serait le fun d'être aussi peut-être une référence, au même titre qu'on en est une au niveau d'industrie technologique à Québec et tout ça, puis qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'au niveau contrat social ou filet sociaux, ce serait le fun d'avoir un petit peu plus de succès quand on investit tellement de temps et d'argent. Avant de passer à ton prochain et dernier sujet, Rémi, il y a quelqu'un qui amène quelque chose de fort intéressant. Est-ce qu'on met les enfants et les vieillards dans le 40%? Parce que c'est sûr ça change un peu la donne.
Oui, c'est ça que j'ai dit. Donc, dans le 40%, il y a des enfants. Par contre, des vieillards, moi, donc les enfants, on les enlève. Là. OK, d'accord, là, je ne sais pas, on en fait de moins en moins. Fait que malheureusement, ils occupent une proportion de moins en moins élevée dans le 40, mais il reste quand même toutes les personnes âgées qui ont cotisé toute leur vie, mais qui peut-être n'ont pas suffisamment cotisé, j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait trop de services pour ce qu'ils se sont donnés. Et là, ils arrivent à un certain point où ils ont tout intérêt à ce que le système continue de ruisseler sur ces personnes-là. Moi, je pense aux jeunes générations. Je pense aux jeunes générations qui vont devoir la payer, cette maudite dette-là. Elle ne disparaîtra pas. Hein? Ça, en passant, là, faut s'enlever ça de la tête. Là. Ça ne s'imprime pas de l'argent. Moi, j'ai déjà essayé, puis ça ne marche pas, puis c'est illégal quand tu réussis à le faire. Okay? Donc, il y a quelqu'un qui s'était fait pogner à Trois-Rivières pour faire ça. À un moment donné, il faut aussi nous l'apprendre à l'école, peut-être. Hein? Je suis très content de savoir qu'il y a des cours d'économie familiale maintenant, qu'on apprend aux jeunes à faire des budgets maintenant. Mais moi, quand j'étais à l'école, puis ça fait pas une éternité, on ne nous enseignait pas ça. On ne nous enseignait pas que dans la vie, il faut faire une colonne des dépenses puis une colonne des revenus également.
Ouais.
Puis il faut essayer de faire balancer les deux.
Mais bon. Les vieilles générations ont beaucoup à nous apprendre là-dessus, par exemple, parce qu'eux, ils sont encore dans cette époque-là où ils ont eu un travail, c'était quasiment plus précieux que bien des choses. Ils le gardaient, le conservaient, ils payaient les choses quand ils avaient l'argent. Peut-être qu'il y a un équilibre à aller chercher là, mais il y a clairement des générations peut-être qui ont eu un petit peu trop facile les choses. Ça a amené une autre façon de voir l'économie. Rémi, on aura en masse de temps pour d'autres débats du type prochainement, dans les prochaines semaines, à On en jase, parce que ça fait bien réagir. Mais je veux quand même donner 2-3 minutes à ton autre sujet. C'est une étude de l'Université de Berkeley sur l'apport de l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. T'en fais des bons et des mauvais constats.
Oui, ben en fait, c'est une étude qui a voulu déterminer si la promesse de l'intelligence artificielle était remplie. Alors, je rappelle quand même, c'était quoi la promesse? C'est l'intelligence artificielle dans le milieu de travail, ça va permettre de remplacer, d'effacer les tâches redondantes, aliénantes, hein, les tâches répétitives qui nous rendent fous, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Donc, hein, on nous disait, ça, c'est bon, ça. Parce que, tu sais, il n'y a pas de raison de demander à quelqu'un, comme dans une chaîne de montage au 19e siècle, dans une usine à Manchester, de refaire la même affaire tout le temps, tu sais. Hein, ça rend fou, ça. Mm-hmm. Et donc, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'effectivement, ça a commencé. Donc, on peut, par exemple, demander à l'intelligence artificielle de nous produire des tableaux, de faire de la correction, de faire de la rédaction même. Or, il faut quand même la surveiller, l'intelligence artificielle. Donc, le temps qu'on pensait économiser là-dessus, on le débourse à regarder si l'intelligence artificielle a bien fait son travail, parce qu'elle est elle n'est pas suffisamment bien développée, donc elle fait des erreurs. Moi, des fois, là, vous savez, j'ai un podcast. Et quand je n'ai pas d'idée, je demande à l'intelligence artificielle de me faire des brainstorms. Je dis, donne-moi l'idée, une idée d'invité, quelqu'un qu'on n'a pas vu.
OK, t'es une coquille vide, finalement, là, toi, Rémi Villemur.
Exactement ça. Okay. Donc, l'intelligence artificielle, j'ai dit, trouve-moi une idée d'invité, quelqu'un qu'on n'a pas vu nulle part, qui n'a pas donné d'entrevue depuis longtemps. Et l'intelligence artificielle me propose des morts,
ah,
des gens qui sont décédés.
Ouais.
Donc là, je dis, ben oui, effectivement, pas donné d'entrevue depuis longtemps, sauf que je ne suis pas sûr que c'est faisable pour autant.
Non, l'hologramme est un peu plus difficile.
Donc, en fait, ce que l'étude nous dit, c'est qu'on perd maintenant notre temps à regarder par-dessus l'épaule de l'IA. Donc, ça, c'est peut-être le mauvais côté. On pensait qu'on allait pouvoir mettre de côté certaines tâches et finalement, on est rendu des superviseurs. Le bon côté, c'est que, par contre, plus on remplace des tâches administratives et froides, plus il nous reste du temps pour revenir au côté humain du travail. Hein? Si vous travaillez dans un bureau et que vous passez votre temps derrière un ordinateur à faire de la correction, pour faire des tableaux Excel et que l'IA peut vous aider à les faire, bien, vous avez plus de temps pour appeler le client, pour passer du temps avec lui. Et ça, je ne l'avais pas vu venir, parce que depuis l'avènement de l'informatique, On vivait dans un monde de moins en moins social, où on était rangé de plus en plus derrière des écrans. Et si l'IA peut nous ramener vers l'individu, ben ce sera la première fois que je vais dire bravo.
Et ce sera même très surprenant. Rémi Villemur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. On te laisse vaquer à tes occupations et à trouver tes prochains invités pour ton podcast.
On va aller remplir la coquille.
OK, super. Merci Rémi. C'est toujours un plaisir de te parler. Rémi Villemur, animateur du côté du 99.5, est toujours en chronique avec nous. Ça faisait réagir, surtout le premier sujet, Matt. Tu sais, plein de gens qui disent, moi, j'ai dû payer 100 000 d'impôts en 2025. J'ai pas de médecin de famille depuis 10 ans. Je paye en double au privé. On se fait solidement entubé. En passant, félicitations pour ce commentaire-là. J'aimerais beaucoup mieux payer moins d'impôts et me payer par moi-même les services que j'ai besoin. C'est vraiment mal fait, le système, puis ça me fait extrêmement suer de payer pour les autres. Je pense même à déménager en Ontario tellement on se fait trop manger notre argent. Il y a de quoi, là? Il y a de quoi de se dire, hey, je paye tellement, puis la façon dont c'est administré, je le revois pas. C'est un sentiment d'injustice.
Mais puis c'est une frustration qui monte parce que, comme on l'a dit, on a l'impression que les services sont de moins en moins bons. Si, par exemple, tout le monde payait leur impôt, puis je veux dire, on vit quand même dans une société, oui, on critique l'impôt, mais c'est cet impôt-là qui permet aux personnes qui sont moins chanceuses dans la vie d'avoir accès quand même à des soins, d'avoir accès à de l'éducation. C'est important.
Et à revenir en société
Exactement.
Avec de meilleures possibilités, donc, de contribuer.
C'est important de donner cette chance-là à ces personnes-là. Par contre, lorsqu'on a une société de ce type-là, on s'attend aussi, lorsqu'on paye beaucoup, à dire « j'ai un problème, je vais moi aussi y avoir accès gratuitement et d'une façon efficace ». Puis là, le problème, on y a accès gratuitement. Mais pas efficacement.
Puis, c'est pas normal que... Et je vous conseille d'aller revoir la série des Bougons. Là. C'est tout le temps un bijou, Matt. Et peut-être un peu jeune, quand c'est sorti, ça a fait un tollé. Les Bougons, il y a plein d'épisodes sur YouTube. Je vous envoie à aller revoir ça. Mais si on est capable de trouver des cracks aussi facilement que ça, il faut se poser bien des questions. Hey, Mathias, on revient dans un instant à On en jase. Jean-François Fortin, qui est en congé pour les deux prochains jours, il revient lundi. J'ai parlé avec Valérie Beaudoin, analyste en politique américaine, plus tôt ce matin. On fait entendre ce qu'elle a à dire sur Donald Trump. Là. Y a-t-il encore des alliés dans le monde où on est en train de donner le gros bout du bâton à ceux qui criaient aux tarifs qui étaient imposés? Est-ce que Donald Trump sait encore pourquoi il fait la guerre à quelques jours avec les hostilités que l'on connaît entre l'Iran, Israël, les alliés, les États-Unis? Y en es-tu conscient? On a-tu vraiment voulu l'assassiner?
Est-ce que Donald Trump est séné, dans le fond?
Voici Mathias Turcotte, on en jase, on revient. Toujours dans On en jase, dernier blitz vers la sortie de cette émission-là, qui était, ma foi, bien chargée parce que, ben, c'est ça en nouvelles ces temps-ci. Si vous aviez la tête embourbée, puis vous dites, voyons, comment je m'en sors en nouvelles? Suivez On en jase, on décortique ça pour vous à chaque jour. On est vraiment une émission d'actualité. Jeff Fortin est en congé pour les deux prochains jours. Il va revenir lundi. Mon nom est Pascal et je suis accompagnée de Mathias Turcotte. Mathias qui est allé rencontrer le maire un peu plus tôt ce matin. Si vous avez manqué son compte-rendu de comment on sauve Saint-Roch, quel sera le futur de Saint-Roch, ce sera disponible sur le site web.
Ça, tout à l'heure, après l'émission, je vais sortir ça.
Mathias, ce matin, je m'entretenais avec Valérie Beaudoin, qui est analyste politique au niveau de la politique américaine. J'avais des questions importantes à lui poser. Puis avant d'aller rejoindre notre invité, qui est Sami Aoun, qui est directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul d'Endurant, je veux faire entendre ces clips-là, parce que peut-être que ça va l'interpeller aussi. Donc, Valérie Beaudoin se spécialise en politique américaine. Il y a quand même une question fort importante que je voulais élucider avec elle. Est-ce qu'il y a réellement eu tentative d'assassinat auprès de Donald Trump?
Mais il y a eu des rumeurs ou en fait de l'information qui avait quand même, qui semblait quand même vérifier que oui, il y a déjà eu bien sûr des gens du côté de l'Iran qui avaient voulu commander soit l'assassinat de Donald Trump ou d'autres personnes importantes dans l'administration, dont un de ses anciens conseillers à la sécurité nationale dans son premier mandat. On se souvient que Donald Trump avait quand même assassiné aussi un leader très très important de l'armée iranienne, des forces spéciales. Donc il y avait comme un désir de revanche, j'ai l'impression, de la part de l'Iran. Mais Pete Hegseth, si je peux dire un petit mot sur lui, je ne pense pas qu'au niveau de la communication politique, tout ce qu'il dit est pris très crédiblement par les journalistes. Hier, il les a attaqués en disant finalement qu'il était juste intéressé à parler des morts de soldats, puis que finalement, on ne voulait pas parler des bons coups de Donald Trump en Iran. Donc ça, je trouve que c'était très indélicat. Alors ça fait que tout ce qu'il dit, ben, les journalistes peut-être prennent ça avec un grain de sel. Là.
Beaucoup de gens se demandent si Donald Trump sait encore pourquoi il est impliqué dans cette guerre-là au Moyen-Orient?
C'est une très bonne question. Est-ce que Donald Trump sait pourquoi il est en Iran? Ben, je pense qu'il veut qu'il se passe quelque chose avec l'Iran depuis bien longtemps. Il y a quand même, pour rappeler, là, déchiré un accord nucléaire qui avait été négocié par Barack Obama. Donc, il y en a déjà eu un accord nucléaire. Là, on est en négociation. On dit que ça allait pas assez vite et que finalement, ben, on a décidé de frapper. Le problème, c'est qu'on a deux versions des faits de ce qui s'est vraiment passé. La version 1, qui a été avancée par Marco Rubio et qui semble être la plus crédible, c'est que Israël allait frapper l'Iran en premier. Et comme on savait que l'Iran allait répliquer, eh bien, on a décidé de se joindre à Israël et de frapper au départ. L'autre version, Donald Trump, quand on l'a confronté à ça, bien, il a complètement contredit, me disait que l'Iran allait nous frapper. Alors, voici ce que j'ai décidé de faire. J'ai presque tordu même un bras à Netanyahou. Alors, qui vivrait là, dans ces versions-là? Je pense que beaucoup, justement, ils sont très, très près, hein, Israël et les États-Unis. Alors, ça aussi, ça fait partie des motivations de frapper maintenant.
Il y a des choses aussi qui se passent à l'international. Ceux à qui Donald Trump avait imposé des tarifs, entre autres des pays européens, se sont retournés en disant « Oh, là, on a le gros bout du bâton très possible sur la table en ce moment » parce que Donald Trump faisait pression et demandait à ce qu'on ait de la collaboration au niveau militaire et qu'on puisse aussi aller se loger à l'intérieur même de certaines institutions, entre autres en Espagne. Puis on a dit « Non, tu ne peux pas venir ici. Nous, on n'a pas envie. » Alors, est-ce que Donald Trump s'est fait plus d'ennemis au courant des derniers mois qu'il le croyait et est-ce que ça va lui nuire? On a posé la question à Valérie Beaudoin.
Ben, Donald Trump, le problème, c'est qu'il a perdu une grosse poignée qui est des soldats là-bas. Puis là, quand je parle de nous, je parle des Européens dans le contexte, mais ça pourrait même être aussi les Canadiens.
Voici pour la portion américaine avec l'analyste politique Valérie Beaudoin. Mais au bout du fil, on a Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM. Un bonheur de vous accueillir. Bonjour, Monsieur Aoun.
Bonjour, merci.
Vous êtes vraiment un expert de ce qui se passe là-bas sur les territoires du Moyen-Orient et dans les dernières heures, des choses ont changé. On parlait entre autres de la CIA, des Kurdes et de l'Iran. Il y a quelque chose au sein même du territoire de l'Iran qui s'est un peu organisé et ce sont ces Kurdes qui ont décidé de prendre les armes et de faire une certaine révolution. Pouvez-vous nous l'expliquer?
Certainement, le Kurdistan irakien, il est très limitrophe du Kurdistan iranien. Les Kurdes ont toujours joué un rôle très important et même, je dirais, décisif dans l'histoire de l'Iran. Cette fois-ci, il semble, après des décennies où ils étaient quand même harcelés, sinon martyrisés par le régime iranien clérical des mollahs, à ce moment, il semble qu'ils ont une opportunité, ils espèrent que ce ne soit pas une autre illusion, qu'il semble que la stratégie américaine de la pression contre le régime iranien lui-même essaye de peut-être commencer à développer une stratégie de morcellement de l'entité iranienne. En ce sens, revenir à un moment où vraiment les Kurdes, les Arabes, les Azaris et d'autres aussi, les Balouches, étaient plutôt des royaumes ou sinon pas des royaumes, étaient quand même des territoires presque autonomes à l'intérieur de l'Empire iranien. Et mais avec un régime centralisé, qu'il soit à un certain moment par le Shah et qu'il soit par le régime des Mullahs, pratiquement ces particularismes identitaires, ces ethnies, voient une opportunité peut-être pour revenir à une certaine souveraineté, même limitée, sans nécessairement se couper de Téhéran, mais quand même avoir plus de marge de manœuvre, plus de droits sur leur destinée. En ce sens, on comprend ce fait que les Kurdes sont encouragés, il semble, c'est vraisemblablement, par l'administration Trump. Malgré que l'administration Trump, généralement, parfois est contradictoire. D'un côté, ils veulent garder l'Iran uni, ils ne veulent pas le morcellement, tout à fait à l'encontre de ce que Israël pourrait penser ou projeter, mais en encourageant les Kurdes, et on a vu le matin aussi les Azaris, il y a eu des bombardements sur les postes frontaliers entre l'Azerbaïdjan et la communauté Azari qui est autour de 25%. Alors ça pourrait donner une idée d'affaiblissement du centre iranien, c'est-à-dire le régime lui-même.
Alors, OK, donc une certaine entente entre les États-Unis et les Kurdes à ce niveau-là. Donc, tout le monde veut un peu tirer la couverture de son côté et en profite de cette instabilité-là. Quand on parle d'implication future, là, c'est implication future potentielle de l'armée canadienne, ça devient une hypothèse fondamentale pour Mark Carney. Il a abordé ça. Est-ce que vous voyez le Canada entrer là-dedans, vous?
Oui, certainement. Si jamais il y a un membre de l'OTAN qui va vraiment peut-être ouvrir et appeler à la rescousse après le chapitre 5 ou l'article 5, comme on dit, et qu'il a besoin d'une solidarité de l'OTAN, le Canada ne peut pas s'absenter. En ce sens, on a maintenant vu hier, par exemple, que la Turquie a été visée par un missile. Est-ce que c'était contre la Turquie, contre la base militaire américaine en Turquie? Ça ne fait pas beaucoup de différence, mais on sait très bien que c'est l'OTAN qui a abattu le missile iranien. Aujourd'hui, même en Azerbaïdjan, on sait très bien qu'il y a beaucoup de relations entre la Turquie, relations amicales avec l'Azerbaïdjan, qui sont ethniquement, ils sont turcs, même s'ils sont de confession chiite. Alors c'est en ce sens que le Canada, si jamais il y a un membre de l'OTAN qui appelle à ouvrir une solidarité, le Canada est membre.
Devra répondre.
C'est conditionné. Oui, c'est conditionné.
Oui, est-ce que ce sera sur le territoire? Est-ce que ce sera une aide souvent en relation avec l'ONU? Est-ce que ça, tout ça est à voir? En terminant, M. Aoun, est-ce qu'une désescalade rapide est encore possible dans le conflit?
Oui, certainement. Mais certainement, c'est tributaire des manœuvres guerrières. Si jamais on se fie aux informations qui nous viennent des États-Unis et d'Israël, il semble qu'il y a quand même une domination presque totale sur à peu près le ciel iranien, surtout la région de l'Ouest, où on ne le voit pas dans les dernières heures des lancements de missiles. Il y a des informations qu'il y a un affaiblissement dans l'envoi des missiles, surtout supersoniques, comme on dit, et aussi il y a une activité des drones. Alors si on se fie sur cet affaiblissement, donc pratiquement, il y a quand même une coalition qui se fait, la France particulièrement, la Grande-Bretagne, avec des pressions de la Turquie, peut-être pour une sortie de crise. Il faut le souhaiter.
Oh oui, il faut le souhaiter parce que bon, c'est inquiétant tout ça. Puis si je pose la question aux auditeurs au 88-971-1021, à mon collègue Mathias, à tout le monde que je croise ou encore sur Twitch, à savoir est-ce qu'il y a une certaine inquiétude, la réponse est souvent oui. On vous remercie, Sami Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. On vous reparle certainement dans les prochains jours. Malheureusement, vous avez du travail sur la planche, encore plus qu'à l'habitude, j'ai l'impression.
Au plaisir. Au revoir.
Au plaisir. Mathias, ça t'inquiète-tu? Toi, tu fais partie de cette génération-là qui n'a pas vraiment connu de tension aussi implicante que celle-là. Moi, j'ai pas connu de guerre non plus, où je m'en souviens, puis des implications canadiennes que ça a pris. En jases-tu avec tes amis? En jasez-vous, en général?
Hey, c'est une bonne question. Est-ce que ça m'inquiète d'un certain sens? Oui, d'un autre sens, non. Puis je vais m'expliquer. On en parlait tantôt, par exemple, avec Degagné. Ils ont des bateaux là-bas, puis ça impacte
dans
des entreprises.
Persique,
dans le golfe Persique, ouais. Qui sont pris. Ça impacte des entreprises d'ici. Ça nous impacte directement beaucoup plus du côté économique, à la pompe et tout. Par contre, il y a certaines personnes qui ressentent beaucoup d'anxiété reliée à ça, puis c'est normal. Mm-hmm. Mais il faut apprendre à réussir à se dissocier un peu de ça, de se dire, c'est terrible ce qui arrive, mais c'est pas nous qui se font bombarder non plus. Puis ça, faut en être conscient. Les bombes qui sont envoyées, les conflits, ça se passe au Moyen-Orient, donc faut pas commencer à tomber dans un cycle anxiogène par rapport à ça. Nous, on est encore au Québec, on est en sécurité, on reçoit des impacts de ça, puis le but, c'est pas de minimiser ces impacts-là, mais c'est de dire, ça sert à rien d'être extrêmement anxieux.
On n'a pas de
avec
contrôle
ça.
Là-dessus.
Exactement. On n'a pas de contrôle. Puis encore une fois, même si on en parle beaucoup, puis on ressent comme un lien de proximité avec ça parce qu'on en voit partout sur les réseaux sociaux, on en parle tellement dans les médias, mais il faut être capable de faire la différence puis de se dire, c'est pas ici que des bombes tombent.
Là, je te rejoins là-dedans. Moi, j'ai pas d'anxiété par rapport à ça parce que dans la vie, je suis comme peu importe ce qui arrive, on n'a pas le contrôle en ce moment. T'sais, on a un certain contrôle au niveau d'un vote politique, mais après, tout est un peu arrangé autour de nous. Moi, ce qui qui me saisit plus, c'est la nouvelle façon de faire la guerre. Puis c'est là où j'y porte beaucoup d'attention parce qu'on parle de technologie. Tu sais, les barrières géopolitiques puis les conversations que Donald Trump avait, puis le Venezuela et tout ça, ça a ouvert des pans sur l'ancienne politique internationale qu'on n'avait jamais ouvert. Lui, il s'est dit, moi, je m'en vais là, je m'en vais chercher ce que je considère être un dictateur qui nuit à son monde. Je le kidnappe, je l'amène aux États-Unis. Rappelle-toi à quel point ça a fait des bouillons en termes de ce qu'on peut ou pas faire. Puis ça, c'est aussi dans le contexte technologique, avec toute l'intelligence artificielle. J'en ai parlé avec Max hier dans son émission, mais Donald Trump voulait s'approprier une intelligence artificielle. Ils ont refusé, mais c'est plein de données qu'on leur donne à chaque jour. ChatGPT a accepté de collaborer au niveau militaire avec Donald Trump. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais c'est plus à ces niveaux-là où je reste très aux aguets. Matt, on revient dans un instant. Vous êtes dans On en jase à Boulevard 102.1. Tu sais, quand on vous dit qu'on est toujours collé sur l'actualité parce qu'à chaque seconde, il y a quelque chose qui sort ou qui concerne des gros dossiers chauds. Mathias, dans les dernières minutes, celle que l'on connaît comme étant une femme politique, oui, mais du côté des États-Unis, qui s'appelle Kristi Noem. C'est la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis. Ça, c'est depuis le 25 janvier 2025. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas une rumeur. On voudrait la renvoyer. Donald Trump voudrait la faire sortir de son poste.
Bien, en gros, ce qu'on nous dit du côté de Donald Trump, c'est oui, la faire sortir de son poste, mais pour l'envoyer à un autre poste. Est-ce que c'est une rétrogradation? Oui, on va se le dire. Dans le fond, ce serait une envoyée spéciale pour The Shield of the Americas, la nouvelle initiative de sécurité de l'hémisphère ouest de la Terre. C'est ce que dit Donald Trump sur Truth Social, évidemment, parce que c'est sa nouvelle façon de communiquer des informations politiques, on va s'entendre. Donc, c'est Kristi Noem, justement, secrétaire générale des États-Unis.
C'est celle qui est au cœur des politiques fortes de Trump. Hein? L'expulsion des immigrants, la restriction de l'immigration, le renforcement du contrôle à la frontière américano-mexicaine. Donc, ce qu'on peut dire, son limogeage serait peut-être une première pour un membre du cabinet pendant le second mandat de Trump. Ça va être à surveiller. Sinon, il y a eu beaucoup d'autres nouvelles, mais oui. Peut-être terminer avec le fait de vous pouvez reprendre nos entrevues d'aujourd'hui sur le site de blvd.fm. C'est tout, Matt. Il reste 2 secondes dans l'émission. Je te remercie pour aujourd'hui.
Ben merci à toi. Merci aux auditeurs. Ça a été un plaisir de vous accompagner au cours de l'heure du midi.
On remet ça à demain dans On en jase. Les filles du retour s'en viennent parce que oui, Denis Gravel est en congé. Salut, à demain.